Mais,
alors, il reste évidemment, d'ailleurs, on n'a pas terminé cette prophétie, il reste la cinquième période, c'est le Nouvel Rome, c'est le Grand État, c'est le Grand Empire. Nous verrons donc tout à l'heure ce que peut être ce Grand Empire. Mais ce que je veux dire, et que vous compreniez bien, c'est que ces prophètes ne sont pas des fous, puisque ce qu'ils disent se réalise. Ce ne sont pas des gens, comme on le croit volontiers, qui font de la magie noire ou qui font appel à des rites particuliers, comme de lire dans un dos ou un miroir ou d'invoquer le diable. Il y en a peut-être eu qui l'ont fait, sans doute. Mais ce sont les grands prophètes, ceux qui restent, selon leur œuvre. L'œuvre est immortelle, parce qu'elle a été toujours réalisée. Ce sont des gens qui se fondent sur des choses aussi évidentes que le sens du temps, du devenir au devenu, les cycles, les rythmes du temps, le sentiment que les anecdotes n'ont pas tellement d'importance, qu'on ne les connaît pas très bien, qu'on ne sait jamais très bien ce qui arrive, mais que les croyances, on les connaît très bien, et qu'on peut se fonder sur les croyances pour déterminer ce que croiront, ce qu'ont cru d'abord les hommes hier, et ce qu'ils croiront demain. Alors, je vais arrêter cette première partie, si vous voulez, vous allez réfléchir à ça, et on va parler d'une partie de ce qui a été prédit pour les 20 ans à venir. Vous avez, je crois, un schéma général, pour autant qu'on le peut en si peu de temps, et qui vous a familiarisé peut-être avec des notions qui ne vous étaient pas habituelles ou familières. Si vous voulez, on va prendre 5 minutes, 5-10 minutes de repos. Bon, pendant cet entracte, une personne qui n'a pas posé directement la question va me permettre d'introduire la deuxième partie. Et c'est le mot antéchrist qui l'a surpris tel que je l'ai employé tout à l'heure, et effectivement, cela demande une explication. Le mot antéchrist a un sens double qu'on confond très souvent. Anté, c'est qui vient avant. L'antédiluvien, c'est ce qui était avant le déluge. L'antéchrist, c'est celui qui vient avant le Dieu. Il y a eu des antéchrists avant le Christ. Certains étaient mauvais. Antiochos III, qui était l'équivalent un peu de ce qu'était Hitler. Lui, il persécutait et massacrait les Chaldéens comme Hitler massacrait les Juifs. Mais enfin, il adorait la Vierge alors que Hitler adorait le Soleil. Mais c'est un peu, parallèlement et sur des plans différents, la même chose. Eh bien, on l'a considéré comme un antichrist. En même temps qu'un antéchrist, c'est-à-dire un qui était avant, effectivement. D'ailleurs, il se faisait appeler le Sauveur, Épiphane, Sauveur. Mais c'était aussi celui qui venait avant, l'attendu, le Dieu attendu. Vous savez que tous les prophètes juifs et grecs, d'ailleurs, attendaient le poisson, attendaient le fils de la Vierge, attendaient celui qu'enverrait l'archer, l'Héros, le Dieu d'amour. L'antéchrist a donc ce double sens. Et il ne faut jamais le perdre de vue. Au Moyen-Âge, les 11e et 12e siècles, quand les prophètes parlent de l'antéchrist, ils parlent de des antéchrists, parce qu'il doit y en avoir plusieurs, les antéchrists viennent avant le Christ, et au fond, ils annoncent, par le fait qu'ils sont avant lui, qu'il viendra ensuite et après eux. Ce sont des dangers nécessaires, des malheurs nécessaires, comme les grosses épreuves que nous avons vues tout à l'heure. Nous comprendrons d'ailleurs en analysant très bien pourquoi, en effet, il est évident qu'il y ait des antéchrists, qu'il soit y en avoir. Mais à la fin du 13e siècle, 14e siècle, surtout 15e encore, est né le mouvement protestant qui a essayé, en somme, de rattacher l'Évangile à la Bible et de rattacher le Dieu d'amour au Dieu de justice. Qui a dit, en somme, tous les mouvements protestants ont dit, bon, l'amour n'est plus là, l'amour Dieu, l'amour miracle, l'amour Eucharistie, mais il peut renaître,
on peut arriver à un grand Dieu qui serait à la fois ce Dieu d'amour et le Dieu justicier, Jéhovah, qui serait une sorte de syncrétisme de tous les dieux. Bon, il n'est pas question d'adorer des idoles comme la Vierge. Il rejetait la Vierge chrétienne, par exemple. Et au fond, il rejetait le Mars, l'archer des papes chrétiens, le Farnèse et des autres. Mais par contre, ils étaient prêts à honorer Jéhovah, et ils honoraient Jéhovah, ils traduisaient la Bible, ils la répandaient dans le monde entier. Et ils ont contribué certainement au renouveau juif qui a suivi, parce que vous savez qu'au Moyen-Âge, et depuis les temps chrétiens, le juif était pratiquement inexistant. Enfin, on ne peut même pas dire qu'il était persécuté, à la limite, il n'existait plus. Au 7e, 8e siècle, les derniers juifs karaïtes, réfugiés dans le Caucase ou réfugiés au nord de la Palestine, se faisaient chrétiens. Ils reconnaissaient que le Christ était Dieu et qu'ils avaient eu tort, qu'ils s'étaient trompés en ne reconnaissant pas la divinité du Christ. Les Karaïtes ont dominé jusqu'au 11e, 12e siècle, où l'on a vu les Juifs renaître et combattre ce mouvement Karaïte. Donc, c'est seulement à partir de ce moment-là que les Juifs vont regagner, si vous voulez, la puissance perdue, et ils vont gagner par la propagation de leur Bible, de leur livre sacré, du Pentateuque et des livres de Moïse, des livres des rois, etc. Ce sont les protestants qui sont à l'origine, en gros, de ce renouveau. Et les protestants vont dire, mais l'antichrist, alors là, antéchrist dans le sens d'anti, qui est contre le Christ, l'antichrist, c'est le pape de Rome, c'est Rome, l'antéchrist. C'est Rome qui est le mal annoncé, le maudit annoncé, parce que ce sont des hommes qui vivent dans la débauche, et évidemment, bien des peuples vivent dans la débauche. Ce sont des hommes qui attendent on ne sait quel esprit libre, quel Saint-Esprit, alors qu'il y a le Dieu qui est là, qui est Jésus, qui est Jéhovah, qui est le Dieu Tout-Puissant, et nous n'avons que faire de cette attente démoniaque et de on ne sait quel avenir. Et à ce moment-là, c'est pour caractériser le pape de Rome, d'abord, qu'a été recréé le sens d'antichrist à travers antéchrist, celui qui est contre le Christ. Contre le Christ originel, contre le Christ de justice qu'on imaginait à ce moment-là. Qu'on imaginait à ce moment-là parce qu'évidemment le Christ de l'Évangile n'est pas un Dieu de justice, mais un Dieu qui condamne la justice à toutes les pages de son livre. Mais on ne lisait plus l'Évangile, on lisait la Bible. Donc on ne savait plus très bien ce qu'avait dit le Christ, en réalité. Donc, il faut bien distinguer entre ces deux choses et actuellement, entre ces deux acceptions du mot, et actuellement, il est certain qu'on trouvera de plus en plus dans les sectes qui naissent, dans les mouvements qui naissent, cette confusion voulue ou inconsciente entre les deux sens du mot. Mais je pense que les deux sens du mot peuvent n'en faire qu'un, et que dans la mesure où Nietzsche emploie le mot sciemment dans les deux sens, dans son Antéchrist, que je vous conseille de lire, c'est un livre majeur, comme Ainsi par la Zarathoustra. Nietzsche, dans l'Antéchrist, dit que il est cet Antéchrist, c'est-à-dire il est celui à la fois qui annonce le Christ futur, Zarathoustra, et qui combat le Christ, qui combat l'amour, qui combat ce qu'est devenu l'amour, du moins, c'est-à-dire la sentimentalité, la sensiblerie, la bigoterie, etc. Donc on peut joindre ces deux mots, mais il faut reconnaître qu'il y a ces deux sens. On trouve particulièrement dans Nostradamus d'ailleurs, et chez tous les prophètes du XVIe siècle, cette idée qu'il y aura plusieurs antéchrists. Nostradamus les dénombre d'ailleurs, il y a le premier antéchrist, le deuxième, le troisième, qui doivent être, si vous voulez, l'équivalent de ce qu'ont été autrefois Antiochos III. Enfin, faut pas oublier que Alexandre a été considéré comme le premier antéchrist. Il l'est encore par Rome, mais Alexandre est le premier antéchrist. Et de la même manière, on considérera Napoléon comme le premier antéchrist, qui historiquement est l'exacte reproduction et qui s'est voulu lui-même la reproduction d'Alexandre.
Donc il y a eu, comme il y a eu Alexandre, Antiochos III, et puis les grands tyrans de Rome, Caligula, etc., Néron aussi, bien sûr. Il y a eu Napoléon, il y a eu Hitler, il y aura d'autres monstres, qui sont des monstres, dans le sens diabolique du mot antéchrist, mais qui sont aussi, encore une fois, des jalons nécessaires sur la route de l'avenir. Évidemment, c'est là que les hommes parlent de fatalité, c'est là que les esprits se révoltent. Ils disent, pourquoi devrions-nous absolument passer par ces massacres ? Remarquez, ce sera plus facile à accepter aujourd'hui que ça ne l'était il y a 2000 ans. Parce qu'il y a 2000 ans, on attendait un Dieu d'amour. Et comment expliquer à des gens qui attendaient un Dieu d'amour qu'il faille passer par ces catastrophes et ces drames? Si Dieu est d'amour, pourquoi oblige-t-il les hommes à passer par ces calamités? C'était presque inexplicable. Et bien des prophètes juifs ou grecs ont échoué dans leur explication ou dans leur prophétisme à cause de cela. Ils se heurtaient à des hommes d'une justice qui ne croyaient pas tellement à l'amour, qu'ils savaient pas ce que ça pouvait être, mais qui savaient très bien ce qu'était la justice, et qui leur disaient, quand nous en aurons Jéhovah ou quand nous en aurons Yahvé, nous savons ce que nous disons. Nous en aurons l'homme qui est pour le bien, contre le mal, qui est pour la loi, qui est le support de la société, mais qu'est-ce que c'est que votre amour, et qu'est-ce que c'est que ce Dieu d'amour qui aime tellement les hommes qu'il commence par les détruire. C'était très difficile à expliquer. Aujourd'hui, nous attendons un Dieu de liberté, et il est peut-être plus facile de comprendre pourquoi cette liberté passe par l'abîme. Mais pour mieux expliquer cela, je voudrais justifier le rationalisme, une bonne fois, de manière à montrer que même cela est nécessaire, a été nécessaire, qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement que de passer par ce rationalisme. En effet, si vous voulez, si tout repose sur des croyances, comme je l'imagine, nous savons très bien par notre exemple personnel qu'on ne passe pas d'une croyance à une autre croyance sans de profonds déchirements.